Bonjour, nous nous retrouvons pour cette édition un petit peu particulière que j'ai intitulée « Devoir de vacances ». C'est-à-dire qu'en fait, je ne suis pas dans le studio de Radio Galère à la friche de la Belle de Mai, je suis sur un lieu de vacances, pas très loin de Marseille, mais quand même un peu loin, et donc je réalise une émission un peu particulière, puisque c'est une émission qui ne fera pas, comme d'habitude, un balayage pendant une heure et demie de la situation internationale pendant la semaine écoulée, mais je vais m'en tenir à un thème important que je vais développer, parce qu'il mérite de l'être, sur une durée qui sera inférieure à une heure et demie, mais c'est ça les devoirs de vacances, et les devoirs de vacances sont des devoirs qui sont moins contraignants, qui prennent moins de temps que les devoirs pendant le reste de l'année scolaire, comme disent nos bambins chéris. Voilà. Donc, j'ai décidé de consacrer cette émission donc, tout à fait particulière à la Palestine. Pourquoi la consacrer à la Palestine ? Tout simplement parce que ces derniers jours ont vu un début de transformation de la situation du conflit palestinien à travers toute une série d'événements sur lesquels je vais m'arrêter. Et puis, je terminerai par une évocation de ce qui est un espèce de point obscur dans la stratégie et dans la géopolitique de cette région-là du monde, c'est-à-dire que qu'est-ce que c'est que l'arme atomique israélienne, quelle est sa fonction pour les uns et pour les autres, comment elle a été conçue, pour vous mettre ça dans un cadre historique beaucoup plus important qui explique ce pays assez particulier, parce que, j'y reviendrai tout à l'heure, en fait, quand on simplifie en disant que Israël ne peut rien faire aujourd'hui sans les États-Unis, c'est la stricte vérité, puisqu'il faut des flux de dollars continus, de l'aide, une complicité de tous les instants pour que l'État d'Israël puisse continuer quotidiennement à fonctionner et quotidiennement à tuer des Gazaouis, à faire mourir des enfants de faim à Gaza. Et en même temps, il y a une certaine marge d'autonomie, il y a un choix qui a été fait bien avant que les États-Unis, j'allais dire, s'occupent quotidiennement d'Israël comme ils le font aujourd'hui, sur lequel je vais revenir car il est important de bien comprendre la relation très particulière qu'il y a entre ces deux pays et surtout l'idéologie qui est profondément encastrée dans le régime et dans la mentalité des sionistes qui sont au pouvoir, qui est une idéologie dangereuse, meurtrière, génocidaire depuis le début. Et c'est ça qui conclura ce petit devoir de vacances. Mais commençons par la situation beaucoup plus proche et beaucoup plus contemporaine. Le premier événement, qui je pense ne vous a pas échappé, a été la libération par la magistrature française, c'est donc une décision de justice de libérer un prisonnier qui avait achevé sa peine depuis 1999, peine pour laquelle il avait été condamné, sans preuve, puisque les crimes dont on l'a inculpé n'ont jamais été démontrés, et il les a toujours niés, et jamais aucune preuve de la réalité de ce qu'on l'avait accusé d'avoir fait n'a pu être apportée. Il n'empêche donc qu'il avait pu payer déjà très lourdement une accusation qui était sans fondement, mais en plus, il a payé au-delà de tout ce qui a jamais été vu sur le sol de la République française, c'est-à-dire une libération qui n'en finissait pas d'arriver. Elle est arrivée la semaine dernière et tous les amis de la Palestine, tous les supporters de Georges Ibrahim Abdallah, tous les supporters du Liban, puisqu'il était libanais, militant du Parti communiste libanais, s'en sont réjouis. S'en sont réjouis beaucoup plus ceux qui, depuis le début, depuis 1999, tapent à la porte de la justice française et des gouvernements français pour dire « libérez-le, il a purgé sa peine, il doit sortir ». Et en fait, la honte, honte soit sur tous les gouvernements successifs depuis 2000, il y a eu du choix. Hein. Vous êtes sous Chirac, vous êtes sous Sarkozy, vous êtes sous Hollande, vous êtes sous Macron, et c'est finalement au bout de 5 ans de Macron que Georges Ibrahim Abdallah est libéré. Donc c'est un péché, une honte sur la République française qui ne sera pas prêt de disparaître, et cette libération tardive n'enlève rien à la honte qui a été accumulée mondialement par la République française. Georges Ibrahim Abdallah était le plus vieux prisonnier politique du monde entier. Alors, tous ceux qui se disent la France, la démocratie, etc., réfléchissez à ceci. La France est capable de faire ça, et la France est capable de faire ça parce que deux de ses amis, je ne parle pas des amis des citoyens français, je parle des amis de la République française, je veux dire les États-Unis d'Amérique et Israël, les États-Unis se ralliant à la position d'Israël à l'évidence, ont exigé de la France qu'elle ne libère pas Georges Ibrahim Abdallah. Et on peut penser, je le pense et je le dis, et je n'ai pas été le seul à le penser, que le but était que Georges Ibrahim Abdallah meure dans sa prison. Ou bien qu'il change de position, c'est-à-dire qu'il ne défende plus la résistance palestinienne et le droit des Palestiniens à vivre dans leur pays et le droit des Palestiniens qui sont partis au retour dans leur pays. Là, il n'a jamais bougé d'un pouce là-dessus. Donc, coup de chapeau, gloire à Georges Ibrahim Abdallah, il est libéré et je crois que c'est aujourd'hui même où je vous parle, donc lundi 21, qu'il rentre dans son pays. Accueilli, je pense, par une foule en liesse, vous le verrez sur vos écrans, je ne le vois pas là où je suis, mais il rentre chez lui. Bravo, bravo à cette longue lutte, bravo à tous ceux qui, depuis 1999 et même avant, l'ont soutenu. Et bravo à tous ceux qui, dans toutes les manifestations palestiniennes qui ont lieu en France et dans le monde entier depuis donc le 7 octobre 2023, le nom de Georges Ibrahim Abdallah a toujours été ovationné, soutenu. Et donc, il l'a dit lui-même, la décision, l'évolution de la politique française et même l'inversion de la politique française vient du fait que le cas de Georges Ibrahim Abdallah est devenu un phénomène, une cause mondiale grâce aux manifestations palestiniennes et grâce à la lutte des Palestiniens eux-mêmes, en particulier des Palestiniens de Gaza. Rien de cela ne serait arrivé si, il y a maintenant plus de presque un an et presque deux ans, les Palestiniens de Palestine, en particulier ceux de Gaza, avaient décidé de sortir de leur prison et de libérer leur pays. Donc la libération de Georges Ibrahim Abdallah est un espèce de coup de chapeau involontaire. Je pense qu'ils ont eu beaucoup de discussions internes, ça n'a pas dû être facile à prendre cette décision, mais c'est en fait un coup de chapeau, c'est-à-dire c'est la persévérance, l'obstination, j'allais dire, du peuple gazaoui et du peuple palestinien qui a permis la libération de Georges Ibrahim Abdallah. Donc double coup de chapeau, le coup de chapeau à ceux qui sont à la base de cette réussite, et puis chapeau au personnage qui a tenu contre vents et marées, dans une grande solitude au début, dans une grande indifférence, et puis maintenant dans ce mouvement favorable de la cause palestinienne qui est en train de progresser, même au prix du bain de sang qui se continue tous les jours, vous le savez, à Gaza. Le dernier phénomène que j'ai suivi, c'était un bombardement avec une bombe extrêmement lourde, parce que dans une embuscade tendue par les soldats du Hamas à des soldats israéliens, quelques soldats israéliens ont été tués, et la riposte du gouvernement de Benjamin Netanyahu a été de lancer la plus grosse bombe qu'ils aient jamais lancée sur Gaza, c'est-à-dire comme s'ils étaient en guerre avec un État puissant, militarisé. Donc on est encore à une montée dans l'horreur, dans le génocide et dans la barbarie sioniste. Ils passent les étapes les unes après les autres, mais il se passe d'autres choses. D'abord, la libération de Georges Ibrahim Abdallah, ce qui est un bon signe. Et puis, l'autre phénomène sur lequel je voulais revenir, c'était la conférence qui s'est tenue à Bogota la semaine dernière. Qu'est-ce qui s'est passé à Bogota la semaine dernière ? Eh bien, à l'appel du président colombien, Gustavo Petro, qui, je le rappelle, a été d'une part guérilleros et ensuite s'est rallié à la vie politique classique, il a été assez longtemps maire de Bogota, qui est une très grande ville et la plus grande ville du pays. Donc Gustavo Petro n'est pas un néophyte en matière de politique. Et en fait, Gustavo Petro a fait là un geste extrêmement important en accueillant dans sa capitale et dans son pays une conférence pour défendre le droit des Palestiniens à la vie et pour dire et pour faire pression sur la communauté des États internationaux, donc tous les États qui se retrouveront au mois de septembre à l'Assemblée générale des États-Unis, pour dire nous ne pouvons plus, nous n'acceptons pas qu'un gouvernement qui tue des enfants qui n'ont rien fait, quand on est à 6 mois et qu'on est tué par un tueur israélien, un soldat israélien, on n'est pas un membre du Hamas, on est un enfant victime de la barbarie. C'est ça qui s'est dit à Bogota, et je tire un coup de chapeau, là aussi, à Gustavo Petro, parce que Il a fait là un geste politique extrêmement fort, et il l'a fait, il faut savoir que Gustavo Petro est président d'un pays où il n'a pas de majorité parlementaire, donc on pourrait dire son pouvoir est relativement faible, et il aurait pu de ce fait dire « je ne suis pas très très sûr de ce que je fais, je suis encore dans un pays où on assassine des militants des droits de l'homme et des militants syndicaux très très régulièrement », et il aurait pu céder à une réaction de peur et dire « les Palestiniens, ça me touche, mais j'en dis pas plus ». Il a fait le pas inverse. Il a fait le pas inverse, et je le salue et je le souligne, et j'en souligne l'importance, c'est de dire qu'un personnage politique qui n'est pas très très fort dans sa situation actuelle, qui est dans un pays dangereux, y compris pour les dirigeants, et donc il a fait le choix de dire « maintenant c'est trop ». Je n'accepte plus que un gouvernement tue des enfants qui n'ont rien fait. Tue des enfants tous les jours, et pas un ou deux, des 50, des 60, des 100 enfants par jour, des dizaines de milliers depuis le 7 octobre 2023. Ce n'est plus supportable. Ce n'est plus supportable. Il faut arrêter ça, il faut arrêter cet acte barbare. C'est tout. Et donc l'humanité, si elle veut se regarder dans une glace, l'humanité des 8 milliards d'habitants actuels, si elle veut se regarder dans une glace, elle dit « ça, c'est pas acceptable ». La guerre, c'est la guerre, il y a des choses, il y a des intérêts, etc. Mais ça, non. S'en prendre à des enfants, ou à leur maman, ça a été le cas aussi, ça n'est pas possible. Et il a réussi donc à rassembler un groupe qu'on appelle le groupe de La Haye, qui se sont réunis, alors je cite les membres des fondateurs de ce groupe, qui sont dans l'ordre la Bolivie, bien sûr, la Colombie elle-même, Cuba, le Honduras qu'on connaît moins, mais qui est aussi un petit pays d'Amérique centrale, la Malaisie, donc pays, je le souligne, pays à majorité musulmane, mais qu'un pays d'Asie, la Namibie, la toute petite Namibie, je veux dire en termes de population, je crois qu'il y a 2,5 millions d'habitants en Namibie, mais c'est un pays qui a été donc soumis à l'apartheid sud-africain, puisqu'il en est voisin, le Sénégal que je salue à cet endroit-là, et l'Afrique du Sud. Alors l'Afrique du Sud, elle ne pouvait pas ne pas se retrouver dans cette bonne compagnie, puisque c'est elle aussi qui a commencé sur le plan international à dire ce que fait Israël en Palestine et à Gaza, ce que fait Israël à ses enfants est inacceptable et relève du génocide. Donc l'Afrique du Sud est évidemment à sa place, puisque je rappelle le procès devant la Cour internationale de justice et le jugement de la Cour internationale de justice qui dit qu'effectivement tous les éléments d'un génocide sont rassemblés sur le territoire de Gaza et subsidiairement aussi sur la Cisjordanie. Je rappelle ce qui est douloureux, mais il faut le rappeler, que la Cour internationale de justice n'a malheureusement pas le pouvoir d'imposer les sanctions qu'elle a prises, et c'est les sanctions, alors je veux dire, c'est des travaux, il y a des dizaines de magistrats venant de tous les pays qui font une instruction comme tous les tribunaux devraient le faire, c'est-à-dire que c'est pas du jour au lendemain que la Cour internationale de justice dit « je condamne ». Et je considère qu'Israël commet un génocide, ça le fait avec des preuves, des documents à l'appui, etc. Elle le fait avec une grande solidité. Et là, elle mérite d'être admirée pour ce travail-là. On peut regretter, je le regrette, je l'ai déjà regretté sur cette antenne, on peut regretter que la Cour internationale de justice, maintenant, puisse être prise, ridiculisée d'une certaine façon, mais c'est pas elle, c'est l'ONU qui est ridiculisée, c'est-à-dire la Cour internationale de justice peut juger qu'Israël est en train de commettre un génocide et aucune sanction ne peut venir, puisque ça fait pas partie du statut de la Cour internationale de justice. Les sanctions ne pourraient venir que d'un vote à l'Assemblée générale ou d'un vote au Conseil de sécurité. On imagine bien qu'un vote au Conseil de sécurité, avec le veto inévitable des États-Unis, ne déboucherait sur rien du tout. Bien, donc c'est pour resituer ces pays étrangers qui en avaient. Alors, la réunion de Bogota était à l'initiative de ces pays-là, et toute une série d'autres pays sont venus y assister. Et donc, il est sorti de cette réunion un certain nombre d'engagements, rappelant qu'effectivement, qu'il était inacceptable qu'un pays fasse ce qu'il a fait en Palestine et à Gaza en particulier. Il était inacceptable, et je souligne qu'il y a la présence qu'il y avait à Bogota à cette réunion, un certain nombre de personnes qui étaient mandatées par les États-Unis pour inspecter ou pour tenir le l'actualité pour s'informer sur l'actualité à Gaza, s'informer sur le respect des droits de l'homme en général dans cette région-là du monde. Et donc ces personnages, qui étaient donc des chargés de mission de l'ONU qui étaient là, ont apporté leur soutien à cette initiative parce qu'ils ont dit, nous, on nous a dit d'aller voir où en étaient les droits de l'homme en Palestine, qu'est-ce qui se passait à Gaza, et en fait, tout ce qu'on écrit ne sert à rien, c'est-à-dire que l'ONU nous mandate pour un travail, nous faisons le travail avec le maximum de soins, d'engagement, de correction dans l'écoute des témoins, dans le rapport avec tous les documents qui existent et tout, et ce travail est jeté au panier puisqu'il ne semble... Il ne s'en sort rien. Il ne s'en sort rien. Et je salue en particulier la première personne qui mérite de l'être en cette occurrence. Il s'agit donc d'une magistrate italienne qui s'appelle Madame Albanese, qui a produit un rapport sur les crimes commis par Israël à Gaza depuis le 8 octobre 2023, qui est un rapport absolument accablant, accablant. C'est-à-dire que, bien au-delà des images que vous pouvez voir sur vos écrans et qui sont, hélas, d'abord difficiles à supporter et qui finissent par être usantes à force d'être répétées tous les jours depuis presque 600 jours, Madame Albanese a eu l'immense mérite et l'immense courage de dire qu'il y a des entreprises capitalistes qui profitent de la guerre à Gaza. Qui profitent, c'est-à-dire qui vendent du matériel, qui vendent des drones, qui vendent des fusils mitrailleurs, qui vendent de toutes sortes d'armes et tout, qui vendent des logiciels pour exploiter, pour repérer avec la reconnaissance faciale tous les militants du Hamas et leurs familles, etc., qui ciblent les endroits où il y a probablement militants du Hamas et qui disent, ça fait partie des logiciels qui existent, que dans un immeuble où il y a un prétendu représentant du Hamas ou un prétendu militant dirigeant du Hamas, on fait sauter l'immeuble, peu importe qu'il y ait 200 personnes ou 300 personnes, 200 ou 300 morts, c'est rien, on a tué, Israël a tué un agent du Hamas, un militant du Hamas, un dirigeant du Hamas. C'est comme ça que ça fonctionne. Et Madame Albanese a eu cet immense mérite de mettre les noms des sociétés qui participent à ce crime de masse. Alors, je ne vous les cite pas, on les connaît hélas, Palantir, Google et un certain nombre d'autres, beaucoup de sociétés états-uniennes principalement, donc qui sont complices du crime de génocide, très très clairement, parce qu'elles permettent à Israël de faire son travail barbare, c'est-à-dire de tuer le maximum de gens qui l'empêchent de mener sa politique d'élimination du peuple palestinien. Elle était là, et un certain nombre d'autres, dont je ne vous cite pas les noms, et d'autres personnages, d'autres experts, on pourrait dire, mandatés par l'ONU pour aller regarder l'état d'exécution des droits de l'homme ou de respect des droits de l'homme dans cette région-là du monde. Beaucoup, beaucoup à dire, donc bravo pour l'initiative de Bogota. Ça aura des suites, puisque en fait, d'abord, ils ont élargi le cercle au-delà des 8 membres fondateurs que je vous ai signalé. Et puis, ils ont bien l'intention, ils l'ont déclaré, ça fait partie de leur activité politique à venir, c'est-à-dire, il faut que l'Assemblée générale des Nations Unies, qui, vous le savez, tous les ans se réunit au mois de septembre à New York, se saisisse de ce sujet en disant maintenant, il faut que l'Assemblée générale soit claire et qu'elle condamne de la façon la plus explicite le crime commis par Israël contre les Palestiniens et qu'elle rappelle que les Palestiniens et qu'elle mette le doigt, j'allais dire, sur l'inutilité ou l'inactivité lamentable de l'ONU, puisque c'est le moment de rappeler, d'insister, de le dire et de le redire. L'ONU a voté en 1945, au mois de novembre, la création de deux États, un État palestinien et un État israélien, dont on peut discuter la périphérie et le découpage, c'est un problème secondaire. L'ONU n'a jamais fait aucun obstacle à la création unilatérale de l'État d'Israël un an après, en 1948. L'ONU n'a jamais exigé que l'État dont elle avait prévu le découpage et l'existence existât vraiment. Et donc l'ONU s'est ridiculisée. et l'ONU a beaucoup, beaucoup de retard sur sa respectabilité à faire respecter, parce qu'elle a beaucoup, beaucoup laissé faire et elle a beaucoup été ridiculisée. Les jugements de la Cour de justice, tout ça, et tout ce qui s'est passé, ça a été ridiculisé par l'Alliance des États-Unis, qui a toujours été un soutien diplomatique fervent et absolument inébranlable d'Israël, et d'Israël qui ne s'est jamais gêné pour continuer à ridiculiser l'ONU et à lui rironner. On pourrait multiplier les exemples, je le fais pas, c'est pas la peine, mais on pourrait les multiplier à l'infini. Donc voilà deux nouvelles importantes. Je reviens une dernière fois, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, sur la question de Georges Ibrahim Abdallah. Tout le monde peut se féliciter de sa libération et de son arrivée au Liban. Personne, je le dis, je ne veux pas lui porter malheur, personne, et je pense qu'il sait exactement quels sont les risques qu'il court, personne ne peut prétendre que le Mossad, les services secrets israéliens, vont pas maintenant qu'il est chez lui, au Liban, essayer de le tuer comme ils ont tué Nasrallah. Alors, je pense qu'il le sait, parce qu'il sait tout ça, tous les gens qui le soutiennent le savent aussi, Georges Ibrahim Abdallah doit être protégé au-delà de tout ce qui est possible. Alors, quand on voit les énormes moyens mis en place par les sionistes pour tuer le leader du Hezbollah, donc Hassan Nasrallah, on sait qu'ils ont la capacité, on sait que le Mossad, les services secrets israéliens, sont des services qui tuent à la demande, qui ont des listes d'heures, qui n'ont jamais arrêté de tuer. Et j'allais même dire qu'ils ont commencé à tuer des gens qui ne voulaient pas que l'État de la Palestine se crée dans les conditions, bien avant même que cet État fût fondé. J'ai une pensée pour un diplomate suédois qui s'appelait le comte Bernadotte, et qui lui essayait de faire respecter la ligne de l'ONU, c'est-à-dire deux États à constituer au même moment. Bernadotte a été tué, alors parce qu'il n'était pas encore le Mossad, mais qu'il était des groupes terroristes dirigés par des sionistes qui sont après devenus qui Premier ministre, qui Président de la République, etc. Donc le terrorisme et l'assassinat politique sont constitutifs de la politique et de la personnalité politique d'Israël. C'est ça qu'il faut avoir bien bien en tête, et toute la littérature sur la démocratie, les élections et tout, ne doit pas cacher cette réalité profonde. Ils ont tué avant 48, ils ont tué beaucoup après, ils peuvent tuer n'importe quand, et pas, alors ils peuvent tuer la masse palestinienne, comme ils le font à Gaza, ou essayer de tuer la masse palestinienne, mais ils peuvent tuer tout leader qui montre qu'il n'accepte pas que l'ONU ne fasse pas respecter le choix des deux États. C'est très très important à avoir en tête. Alors, je suis convaincu, évidemment, que Georges Ibrahim Abdallah et tous ses amis, et le Parti communiste libanais, et le Hezbollah libanais, savent exactement le type de risque qui est couru par ce personnage maintenant célèbre, si, quand il arrive au Liban, ce qui est le cas donc aujourd'hui au moment où je vous parle. Et j'espère, longue vie militante à Georges Ibrahim Abdallah, il a mérité d'être là au moment où il y aura nécessairement une évolution positive dans la création d'un État palestinien et dans le respect des Palestiniens. Alors quelques mots à ce sujet quand même, puisque là, on sent bien à des craquements divers, donc le sommet, le forum de Bogota en est une preuve, la libération de Georges Ibrahim Abdallah en est une autre, on sent bien qu'effectivement, dans le camp, disons, de l'Occident, pour faire simple, on est en train de voir que continuer le carnage au vu du monde entier, c'est un moment qui va probablement dépasser, c'est-à-dire qu'il va falloir s'orienter vers une solution politique. Ça ne veut surtout pas dire, et ne croyez surtout pas, qu'il y ait tout de suite la déclaration, la proclamation d'un État. Non, ce qui est en train de se préparer dans les coulisses des diplomaties, c'est comment donner le pouvoir à des Palestiniens sans respecter tous les Palestiniens. Alors, je rappelle que la lutte palestinienne, elle est portée par toute une série de groupes. On connaît le Hamas, on connaît le Front Populaire de Libération de la Palestine, on connaît le djihad islamique, il y en a quelques autres et tout. Et on connaît aussi l'autorité palestinienne. L'autorité palestinienne, c'est une autorité qui n'est pas respectable en ce sens que l'autorité palestinienne, elle a été mise en place pour représenter diplomatiquement la Palestine sous la forme d'un État, presque présentable, mais qui n'en est pas un puisqu'il n'est pas souverain sur son territoire. Et il y a à la tête de l'autorité palestinienne, il y a à la tête un personnage, une série de personnages qui sont, l'expérience l'a montré, prêts à tous les compromis pour que l'Occident et Israël puissent dire « il y a un État palestinien » et que cet État soit pieds et poings liés et soit totalement dépendant de l'État israélien. C'est-à-dire qu'en fait, ça serait une souveraineté fausse, ça serait une espèce de tutelle qui cacherait, il y aurait les apparences d'un État, et en fait, les personnages et l'équipe qui serait à la tête de cet État seraient des gens qui seraient soumis aux colonisateurs. Donc ça, c'est le danger. Alors le danger est connu, il y a des textes récents du Front populaire de libération de la Palestine qui en attestent, et de quelques autres, il n'y a pas de souci. Le danger est connu, c'est-à-dire qu'il faut savoir que l'autorité palestinienne est une autorité qui n'en a plus, puisqu'en fait, le mandat de M. Mahmoud Abbas, puisque c'est de lui qu'il s'agit principalement, en tant que président de cette autorité palestinienne, aurait dû être renouvelé dans des élections qui n'ont jamais eu lieu. Donc M. Mahmoud Abbas n'est pas plus représentatif de la Palestine que M. Zelensky ne l'est de l'Ukraine. C'est un personnage qui est installé là parce qu'il rend des services et il fait croire à l'opinion publique internationale, ou au moins une partie de celle qui veut bien le croire, qu'il y a un État palestinien. Il n'y a pas d'État palestinien. Il y a pour l'instant un siège occupé par des personnages qui ne sont pas des militants et qui sont des personnages qui sont prêts et qui ont déjà prouvé qu'ils étaient prêts à toutes les concessions pour que l'État d'Israël en fait, reste totalement le maître du jeu et soit un obstacle au développement d'un vrai État palestinien souverain, autonome, ayant accès à la mer, à Gaza par exemple, ayant accès à toutes les ressources en eau, etc., qui lui sont dues. Tout ça est rendu, n'est pas possible tant que la question de l'autorité palestinienne et la question de ses personnages, Mahmoud Abbas et ceux qui l'entourent, n'est pas réglée. Et donc, vous voyez, tout ça ouvre un champ de perspective, mais ce que je voulais souligner, je le redis, c'est qu'on sent bien que du côté de l'Occident, du côté des États-Unis, du côté de la France aussi, du côté de l'Occident, pour faire simple, on est en train de se dire que la situation telle qu'elle n'est pas tenable très très longtemps et qu'il faut trouver une présentation à peu près supportable par le colonisateur israélien, mais qui n'est pas supportable parce qu'il n'y aura pas de souveraineté palestinienne tant que ces équipes-là resteront au pouvoir. C'est ça la nouvelle phase dans laquelle on est en train de rentrer. Et c'est très très important que des groupes et que la commission et le forum de Bogota aient aussi insisté là-dessus. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une vraie représentation de tous les courants palestiniens et que c'est la représentation de tous les courants palestiniens qui doit décider de l'avenir de la Palestine et des Palestiniens, de la Palestine, des Palestiniens qui y sont et des Palestiniens qui en sont partis parce qu'on les a mis à la porte de leur terre, le revolver sur la tempe. C'est ça qu'il faut toujours, toujours rappeler, sinon on fait de la mauvaise diplomatie ou de la diplomatie pour le journal télévisé. C'est pas ça la question en ce moment. Et donc j'en arrive maintenant à la deuxième partie de mon devoir de vacances, qui était de parler de l'arme atomique israélienne. Alors on en parle beaucoup. Alors, c'est la position classique, Israël n'a jamais reconnu qu'il n'avait pas la bombe atomique, mais tout le monde sait qu'il l'a, alors on sait qu'il en a, alors peut-être beaucoup, alors les chiffres varient, mais enfin, il est probable, d'après ce qui circule ici et là, malgré tout, il est probable qu'Israël a autant de bombes atomiques que la République française. Bon, il faut le savoir, c'est-à-dire très très loin derrière les deux premiers, qui sont donc la Russie et les États-Unis. Un peu loin maintenant, je pense, derrière la Chine, mais dans le troisième ou quatrième rang, très très bien placé dans les possesseurs d'armes atomiques. Alors comment en est-on arrivé là? Et c'est là qui est très très important, parce que c'est là qu'on est obligé d'aller chercher, d'abord dans l'idéologie sioniste, qui est prête à tuer pour coloniser et pour éliminer tous les gens qui sont sur la terre qui doit être colonisée. Et comment on en est arrivé là? Parce que ça, c'est pas très très connu, et ça fait écho à la question iranienne que j'aborderai pour terminer. On se retrouve donc en 1948, l'État sioniste est créé, dans les conditions qu'on sait, c'est-à-dire sans État palestinien, donc une espèce de boitillement, l'ONU claudique sur une seule patte, et puis est incapable de faire aller les choses plus avant. Et dès le début, et c'était probablement dans leur tête, bien avant qu'ils fussent au pouvoir, un certain nombre de dirigeants du nouvel État sioniste, je pense en particulier à David Ben-Gurion et ensuite à Madame Golda Meir, savent qu'il faudrait qu'ils aient la bombe atomique pour que leur implantation dans cette région-là du monde, je rappelle que tous ces gens-là, que ce soit, bon, aussi les anciens, Ben-Gurion, Golda Meir, Netanyahou lui-même ou son père, etc., tous ces gens-là sont des gens nés en Europe, dans les minorités juives d'Europe, qui se sont installées en Palestine avant 1948, et donc ils n'ont rien, ils ne sont pas du pays. Donc ils savent très très bien, dans leur fort intérieur, qu'ils doivent voler le pays, un pays qui n'est pas le leur, ils doivent voler à ceux qui en sont les occupants, et en fait les propriétaires réels. Et pour s'imposer à cet endroit-là, il faut d'abord effectivement terroriser les Palestiniens eux-mêmes. Ce qui a été fait, c'est la Nakba, on terrorise à coups de fusil, on vient vous prendre votre terre, on vous met dehors, on vous tue si vous résistez, etc. Mais il faut aussi terroriser le monde arabe alentour, car le monde arabe alentour, toute une série de pays qui sont là tout autour, je les prends, la Syrie, le Liban, la Jordanie, l'Égypte, etc., sont bien conscients qu'on est en train de leur installer un État qui n'a rien à voir dans leur pays, et qu'on est en train de martyriser une population arabe qui est la population palestinienne. Et donc ils seront, alors après l'évolution de chacun sera différente, pour la Jordanie ce sera pas comme pour la Syrie, ça, je ne vais pas m'attarder là-dessus, c'est connu, mais ce qu'il y a, c'est que Israël est tout de suite conscient que son arrivée dans cette région-là du monde, donc son arrivée très artificielle, donc les colonisateurs qui viennent là, ne sont pas accueillis avec satisfaction par tous les voisins arabes, ne sont pas accueillis par le monde arabe d'une façon qui fait que tout serait calme et que personne n'aurait rien. Ça se traduira par un certain nombre de guerres, je ne reviens pas là-dessus, sur la guerre des six jours, etc. Mais ce qui est important de savoir, c'est que dans la mentalité des colons européens juifs venus s'emparer de la terre palestinienne, il y a le souci de s'imposer à l'ensemble du monde arabe et de terroriser le monde arabe pour que celui-ci ne fasse rien. Alors le terroriser, c'était évidemment répondre militairement quand il y avait des actions arabes. Alors on sait les guerres qui ont eu lieu et que, hélas, les pays arabes n'ont pas réussi à gagner, pour toute une série de raisons sur lesquelles je ne vais pas beaucoup m'étendre. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dès le début, les Ben-Gurion, les Golda Meir, savaient que la possession de l'arme atomique, c'était la garantie de la peur permanente de tous les régimes arabes, et donc la certitude que la région serait obligée d'accueillir ce régime, parce que tout le monde aurait peur de mourir, tous les États auraient peur de mourir, parce que la menace nucléaire, c'est dire « je suis là, je veux bombarder, je vais vous bombarder, je vais vous éliminer de la surface de la Terre ». Parce que quand on a parlé de guerre nucléaire entre les États-Unis et l'URSS, on avait affaire à des ensembles géographiques immenses, et on ne pouvait pas imaginer qu'il n'y ait plus rien tout autour, enfin après un bombardement atomique. Par contre, si vous parlez du Liban, et que vous dites on met deux fois trois Hiroshima sur le Liban disparaît de la surface de la Terre. C'est ça que ça veut dire. Donc la capacité terrorisante de l'État Israël doté de la bombe est une capacité énorme par rapport à la taille des régimes et à la faiblesse politique aussi dans certains cas des régimes arabes qui l'entourent. Et c'était donc bien ça le souhait. Seulement, il fallait fabriquer l'arme nucléaire et il fallait trouver les moyens de le faire, alors les moyens scientifiques, les moyens techniques, les moyens financiers. Ça s'est fait progressivement. Et je voulais insister sur le fait que ça s'est fait beaucoup avec la complicité de la République française. Ce qui explique aussi certaines relations un peu particulières entre la France et l'État d'Israël. Pourquoi la France ? Parce que la France, et vous le savez tous, ça fait partie de l'histoire nucléaire de la France, à un moment donné, alors que ce n'était certainement pas le souhait des États-Unis qui détestaient le général de Gaulle. Donc, à un moment donné, la France, donc la France de Gaulle, et puis après ça s'est poursuivi même un peu sous la 4e République, parce que les gaullistes étaient quand même là, même s'ils n'étaient pas au pouvoir encore, et si de Gaulle n'était pas à l'Élysée. La France donc a voulu se doter de l'arme nucléaire, vous savez qu'elle l'a fait, donc en 1962, premier essai de la bombe et tout. Et donc, pour Israël, ce pays, donc, qui, un peu dans le dos des États-Unis, hein, je rappelle donc l'hostilité et l'opposition violente des États-Unis contre de Gaulle, par tous les moyens, donc Israël se rend compte qu'effectivement, là, il y a quelqu'un qui est en train de passer un peu sur les marges, de se doter de l'arme nucléaire, alors que le patron, le grand chef du monde après 1945, les États-Unis, ne voudrait pas, et est en train d'y arriver. Donc Israël se dit, et les dirigeants de l'État d'Israël se disent, c'est avec eux qu'il faut travailler. Et c'est effectivement ce qui va se passer. C'est-à-dire que la France met en place, aux Israéliens, à leur demande, des capacités techniques pour avoir une centrale nucléaire, alors qu'on présente comme une centrale de recherche, Yanodine, etc. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que la France va aider Israël à se fabriquer le plutonium nécessaire à la fabrication des bombes atomiques israéliennes. Et je citerai un dernier exemple, parce que ça mérite d'être connu. Il faut savoir qu'un certain point, parce que ça, tout ça se fait dans le cadre de la politique gaulliste, donc qui veut absolument avoir la bombe atomique, alors que les États-Unis voudraient que la France ne l'ait pas. Et puis, cette politique se poursuit un peu pendant la suite, c'est-à-dire pendant la 4e République finissante, parce que là, en fait, ce qui se passe, c'est que la guerre d'Algérie fait que les gouvernements français, je pense à Guy Mollet, à Félix Gaillard et quelques autres, sont terrorisés par le nasserisme, par l'apparition de Nasser, et sont persuadés que la guerre d'Algérie, et donc que l'indépendance de l'Algérie qui va venir, sera le résultat de l'action des pays arabes. Et donc, effectivement, aider Israël à terroriser les pays arabes, c'est d'une certaine façon s'opposer à la libération de l'Algérie, de la colonisation. Et je cite le cas le plus étonnant, c'est qu'un des derniers présidents du Conseil de la 4e République, donc dans les débuts de l'année 58, qui s'appelait M. Maurice Bourgès Monoury, ce n'est pas un nom qu'on apprend beaucoup à l'école, mais je le cite, parce que ce monsieur doit accueillir un certain Shimon Peres, et ce monsieur doit signer pour M. Shimon Peres, qui est à l'époque ministre des Affaires étrangères d'Israël, des accords permettant la constitution de la centrale nucléaire et donc la fabrication du plutonium pour les bombes. Ce monsieur, M. Shimon Peres vient à Paris pour avoir la signature de M. Bourgès Monoury. Il se trouve que M. Shimon Peres arrive à Paris un jour où M. Bourgès Monoury a son gouvernement qui est mis en minorité au Parlement. Et donc, quand M. Shimon Peres, le lendemain de la mise en minorité de M. Bourgès Monoury, vient le voir en disant « signez le papier », M. Bourgès Monoury, qui n'a pas été poursuivi devant les tribunaux, qui a eu l'impunité par rapport à ça, signe en antidatant, alors qu'il n'est plus président du Conseil depuis 24 heures, un accord pour la centrale nucléaire israélienne. Merci, M. Bourgès Monoury. Voilà un beau travail dans les coulisses. Tout ça pour dire qu'effectivement, la France y est pour beaucoup. La France y est pour beaucoup. Et effectivement, comme ça passe donc par le canal de gaulliste et de la bombe française, les États-Unis ne sont pas très très contents, mais ils n'ont pas trop le souci d'intervenir. Ils vont quand même commencer à s'inquiéter à la question de la prolifération nucléaire, j'arrive à ce dernier sujet, à partir du moment où la Chine, contre la volonté de l'URSS, je le souligne, ça fait partie de l'histoire aussi, où la Chine se dote elle-même de l'arme atomique. Et là, à ce moment-là, on en arrive à cette idée dont vous avez entendu parler, puisqu'elle s'est concrétisée par un traité, le principe de la non-prolifération. C'est-à-dire qu'on est en 68, et il y a un certain nombre d'États donc puissants, ou relativement puissants, sur la place internationale, qui décident, et qui ont l'arme atomique, décident qu'il ne faut pas que cette arme atomique, n'importe qui, l'ait en plus. Parce qu'on sait que c'est une arme dangereuse et même mortelle dans des grandes quantités pour l'humanité elle-même dans sa totalité. Et alors, ces cinq-là sont les cinq qui sont au Conseil de sécurité de l'ONU, dont j'entends les États-Unis, la Grande-Bretagne, qui a la bombe, parce que, en fait, les États-Unis ont laissé la faire, ou l'ont aidé à la faire, la France, qui est un peu rentrée de force dans le club, mais qui y est, et puis l'URSS qui y est, et puis la Chine. Ils sont là, et ils se disent, effectivement, il faut qu'on ait une politique concernant la non-prolifération, et donc ils vont mettre sur pied un traité qui existe toujours, qui s'appelle le traité de non-prolifération nucléaire. Le cas d'Israël passe totalement isolé, c'est-à-dire que les Français savent, les États-Unis ont un doute, mais les États-Unis ont un rapport très très particulier avec Israël, et donc on ne va pas embêter les Israéliens qui ne veulent rien dire, qui veulent simplement faire peur à leurs voisins arabes, et donc le cas est totalement ignoré, c'est-à-dire qu'à aucun moment il ne sera exigé par les États-Unis, les autres auraient peut-être suivi, mais dans la mesure où les États-Unis n'ont pas exigé, rien ne sera demandé à Israël. Israël n'aura aucun compte à rendre sur son armement atomique à quiconque. Et c'est cette réalité-là qui permettra d'expliquer qu'à un moment donné, un pays comme l'Iran dira « mais cette menace qui menace le Liban, qui menace la Syrie, qui menace tout le monde, qui menace l'Égypte, cette menace, elle est aussi pour nous. Elle est aussi pour nous, à telle enseigne que si aujourd'hui M. Netanyahou est déchaîné contre l'Iran, on a vu ça récemment, déchaîné très concrètement, avec des bombardements, c'est qu'il considère qu'il y a là, en Iran, quelqu'un qui dit « je ne veux pas être soumis à la menace nucléaire de ce pays ». C'est très très important pour la suite. Et donc ce passage un peu en marge hein, est suivi par d'autres, puisque ce sera le cas de l'arme atomique pakistanaise, qui elle sera aussi le fruit d'un travail de coulisses d'un scientifique pakistanais qui est très très connu, M. Khan, et la Pakistan se dotera aussi d'une arme nucléaire en réponse à l'arme nucléaire de l'Inde qui aurait été construite plusieurs années avant. On en est là de ce dossier. Là où c'est important à souligner, c'est que en fait, la non-prolifération, le cas d'Israël en matière atomique est une rend ridicule ce traité de non-prolifération, puisqu'à force de dire « on ne veut pas savoir s'ils en ont, ils ne le disent pas, etc. » mais tous les chiffres disent qu'ils en ont, etc. Et on sait avec quoi ils les porteraient, on sait qu'ils ont des sous-marins avec des lanceurs, on sait qu'ils ont des avions fabriqués aux États-Unis qui permettent de porter ces bombes, etc. On sait qu'ils sont tout à fait capables et de les fabriquer et de les utiliser. Et ils le font dans le cadre d'une doctrine particulière, d'un raisonnement qui est un raisonnement de folie, c'est-à-dire qu'on appelle le raisonnement de sens. Alors ça fait référence à un épisode biblique, mais ça veut dire que le jour où nous devrons, nous Israël, pour faire peur d'une façon définitive ou éliminer d'une façon définitive un adversaire arabe ou un adversaire iranien, alors l'adversaire arabe ça pourrait être la Syrie, c'est plus le cas de la Syrie actuelle, ça aurait pu être l'Égypte mais qui a signé un traité de paix, ça aurait pu être la Jordanie, enfin, que la Jordanie n'avait pas beaucoup d'espoir. Bon, et donc le jour où quelqu'un menacera vraiment Israël, Israël pourra utiliser sa bombe contre lui au prix de sa propre existence. Et là on est dans le cadre d'un raisonnement qui est un raisonnement illogique, irrationnel, c'est-à-dire « Je te tue, je mourrai aussi, mais je t'aurai tué. » Alors imaginez quand même un gouvernement qu'on nous présente comme démocratique, il y a des élections à la Knesset, il y a des partis, il y a ci, il y a ça, un gouvernement qui est capable de dire « Pour tuer mon adversaire, je me sacrifie ma vie moi-même, parce que le territoire d'Israël est tout petit. Il est impossible de jeter une bombe israélienne sur la Syrie, même sur l'Iran, sans que le nuage radioactif et toutes les conséquences que ça peut avoir ne se propagent sur Israël. C'est-à-dire, je vous tue et je vais mourir. » On a là une espèce de déni de civilisation. On a un niveau d'inhumanité extrêmement grave et extrêmement préoccupant. Or ça, tout le monde fait l'innocent, c'est pas grave. Bon, si, c'est très, 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 très grave. Et le fond du problème est qu'il faut, et c'est un peu dans ce sens-là, la démarche du Forum de Bogota va dans ce sens-là, c'est-à-dire il faut vraiment que le monde entier se rende compte que ce pays qui tue à longueur de journée des enfants sans défense ou leur maman, que ce pays est capable de faire bien, bien pire encore, c'est-à-dire de tuer des centaines, enfin des dizaines de millions d'Arabes des pays voisins, quitte à y laisser lui-même la peau. C'est-à-dire qu'on a affaire à un État très dangereux pour la communauté internationale, très dangereux pour l'exemple qu'il donne, c'est-à-dire que c'est un régime, un gouvernement qui n'accepte aucune règle, qui n'accepte pas rationnellement de dire on voudrait obtenir ceci, on voudrait obtenir là, on ne négocie pas, si on décide de vous tuer, quitte à ce que nous en mourions aussi dans la riposte ou dans la contamination nucléaire, nous allons le faire. Donc il s'agit, je pose bien le problème tel qu'il est dans sa matérialité aujourd'hui, c'est-à-dire il s'agit bien de dire ce type de raisonnement, qui est un raisonnement suicidaire, un raisonnement irrationnel, c'est un raisonnement barbare, c'est-à-dire peu importe que je meure, je tue. On est dans la logique du serial killer. Alors, on va dire, vous exagérez, c'est pas... Mais si, c'est exactement ça. Peu importe que je meure, je veux tuer qui je veux, quand je veux. Mais quel est le gouvernement qui signerait pour ça? Alors, je salue la Colombie, la Bolivie, le Cuba, etc., qui ont signé, qui ont appelé à cette réunion de Bogota, parce que c'est pas possible qu'on ne peut pas vivre sur cette planète s'il n'y a pas une espèce de fou furieux qui dit « Moi, quand je décide de tuer mon voisin, quitte à ce que j'en meure, je tue mon voisin. » Alors, je tue mon voisin, l'expression est simple, ça veut dire, je vais tuer 40 millions d'Égyptiens avec une bombe, je vais tuer 30 millions de Syriens, je vais tuer 80 millions d'Iraniens, ça n'a pas d'importance, tant pis si j'en meurs. Mais où est-ce qu'on est? On est dans un asile de fous? Ou est-ce qu'on est dans une communauté d'États rationnels? C'est ça la question qu'il fallait... que je pose, je le fais aujourd'hui. J'ai fait donc ce bref parcours de l'histoire de l'arme nucléaire. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les États-Unis savent évidemment qu'Israël a des bombes atomiques, mais le fait qu'ils n'en parlent pas et qu'ils n'aient pas décidé de dire « vous devez respecter le traité de non-prolifération », ça rend ridicule le traité de non-prolifération. Et je terminerai sur ce dernier aspect de la question. Ce traité de non-prolifération, d'une part, bon, il y a eu des brèches, l'Inde et puis le Pakistan. Israël, la brèche était faite bien avant même que le traité existât. Et puis, il a été question qu'il y en ait d'autres. Alors, je cite la Corée du Nord rapidement. La Corée du Nord s'était dit, moi, si on me menace, puisque la menace de la Corée du Sud, ce qui veut dire la menace des États-Unis et la menace de la bombe atomique états-unienne, elle est sur moi, je décide de fabriquer l'arme atomique. Et puis, il était intervenu un certain Clinton qui avait dit non, vous voulez utiliser l'énergie nucléaire ou le nucléaire à titre civil, faire des centrales et tout, je vais vous en fournir en échange de votre engagement de ne pas faire de bombes. La Corée du Nord avait accepté. Et puis, M. Bush arrive au pouvoir en 2000, il succède à M. Clinton, et M. Bush dit non, il n'en est pas question, je ne fournirai rien. Alors, la Corée du Nord. Ah donc, on m'interdit aussi le nucléaire civil. Je ne peux pas avoir d'énergie. Alors, je signale qu'il n'y a pas de pétrole, il n'y a pas de gaz naturel en Corée du Nord. Donc, on leur interdit l'utilisation de l'énergie nucléaire à titre civil. Et donc, à ce moment-là, la Corée du Nord dit « J'avais adhéré au traité de non-prolifération qui me donnait droit au nucléaire civil et qui m'interdisait l'arme atomique. J'étais tout à fait dans les clous, j'étais d'accord avec lui. Et tout d'un coup, on me dit que c'est pas vrai. M. Bush me dit, ce qu'a dit M. Clinton, ça n'a pas d'importance. » Et donc à ce moment-là, ce que fait la Corée du Nord, c'est qu'elle sort du traité de non-prolifération, dire, mais désormais, j'ai compris votre jeu, mais moi, puisque vous me voulez beaucoup de mal, c'est vrai depuis assez longtemps, je vais décider de me fournir l'arme nucléaire. Et c'est ce qu'ils ont fait. D'autres pays pourraient suivre le même. Donc ça, c'est les faiblesses du traité de non-prolifération et c'est le vice de la politique des États-Unis avec un Clinton qui essaye d'arrondir les angles, d'arranger les choses, et puis un Bush qui dit « il n'en est pas question ». Alors c'est le Bush de l'après 11 septembre, on sait tout ça. Dernier aspect qu'il est important de souligner, ce traité de non-prolifération nucléaire, et j'insiste là-dessus puisque j'en ai l'occasion, dans son article premier, dit qu'aucun État détenteur de l'arme nucléaire ne peut l'installer dans un pays autre que le sien. C'est-à-dire qu'on est bien dans la logique de la dissuasion. Cette arme, elle est là pour me défendre. Je l'utiliserai contre quelqu'un qui m'attaquera. Mais je m'interdis de la mettre en place, sous ma gouvernance, dans un pays étranger. Or, écoutez bien, alors les États-Unis, très à cheval sur le traité de non-prolifération, menaçant l'Iran, etc., etc., ont installé des bombes atomiques et les plus perfectionnées qui existent aujourd'hui. Elles ont été modernisées, on n'est plus du tout, on est bien au-delà de la petite bombe d'Hiroshima, de la petite bombe de Nagasaki. Et donc, ils ont installé des armes atomiques en Belgique, aux Pays-Bas, en Italie, en Allemagne, et ils viennent d'en installer en Grande-Bretagne. Parce que la Grande-Bretagne a bien ses bombes atomiques à elle, mais en fait, les États-Unis viennent d'en déposer en Grande-Bretagne. Ce qui se passe, donc, on a un pays qui dit non-prolifération nucléaire et qui viole lui-même et à longueur de temps, parce que ce que je vous indique sur la Belgique, l'Italie, l'Allemagne et les Pays-Bas, ça date pas d'hier, ça date depuis le début de l'OTAN. Donc en fait, ce traité de non-prolifération nucléaire est une sinistre farce. Et en fait, les gens honnêtes sont ceux qui le respectent, c'est-à-dire qui disent, ben moi, je suis prêt, c'est le cas des Iraniens, je suis prêt à ne pas faire d'armes atomiques, je l'ai dit depuis le début, je veux pouvoir utiliser l'énergie nucléaire à titre civil, je veux pouvoir utiliser tout ce qui est les produits radioactifs pour la recherche médicale, pour la recherche scientifique, je ne veux pas faire autre chose. Mais par contre, si vous vous mettez à me bombarder, pas tous les matins, parce qu'ils ne feront pas ça tous les matins, mais si vous me mettez à bombarder toutes mes installations, à ce moment-là, je vais peut-être me trouver dans la situation de la Corée du Nord, c'est-à-dire que vous avez un traité sur lequel que je respecte moi et que vous passez votre temps à ne pas respecter, je ne joue plus avec vous. C'est ça la situation dans laquelle on se trouve maintenant par cette question de la bombe atomique, de l'Iran et d'Israël. Israël a voulu faire peur. Et l'Iran n'a pas eu peur. Et l'Iran, je conclurai là-dessus, c'est très très important, l'Iran n'a pas eu peur. L'Iran a dit, moi, j'ai signé le traité de non-prolifération, je ne veux pas l'arme atomique, c'est tout à fait clair. Par contre, si quelqu'un m'attaque, je me dote des moyens de riposte. Je me dote des moyens de riposte, c'est-à-dire, je mets au point ce qu'ils ont fait, toute une série de missiles, y compris des missiles hypersoniques, très pointus, pas chers, qu'ils ont produits en grande série. Et donc je me donne des moyens de me défendre. C'est ce qu'ils ont fait il y a quelques semaines. Ils ont riposté à l'attaque israélienne. Ils ont riposté d'une façon qui a été très très douloureuse et très militairement humiliante pour Israël, au point que Israël a été sauvé in extremis par M. Trump, qui a dit, puisqu'Israël, il n'a pas dit comme ça, mais c'était ça, le bombardement des États-Unis de l'Iran et des installations nucléaires de l'Iran, c'est une défense, c'est un sauvetage in extremis d'Israël. Il faut bien voir ce contexte-là. Donc, je résume tout ce que j'ai dit sur Israël. Un régime qui idéologiquement veut terroriser tout son voisinage, veut s'imposer par la violence et par la menace de mort à la totalité de ses pays voisins, qui est soutenu jusqu'à l'extrême, jusqu'à l'extrême, puisque l'engagement de Trump, ça veut dire Israël a beaucoup souffert, il a pris des coups très très forts dans la riposte iranienne, je suis obligé de montrer, de dire on arrête ce jeu-là, calmez-vous l'Iran, calmez-vous. Ça veut dire qu'il a mesuré l'ampleur des difficultés israéliennes, mais elles ne font, j'allais dire, que commencer. Elles ont commencé depuis longtemps. Mais tous les événements que j'ai essayé de rassembler dans ce devoir de vacances montrent que la situation est en train d'évoluer et qu'il va bien falloir que ce pays, s'il veut subsister, il y a sûrement des gens très, très respectables en Israël qui pourraient rester habiter là, même s'ils n'avaient pas à leur tête des sionistes fous furieux et suicidaires, et génocidaires tout à la fois, mais ça se réglera avec les personnes concernées, et ça se réglera avec la souveraineté palestinienne. Voilà. Merci de votre attention. Le prochain devoir de vacances sera pour mardi prochain.